Merci d'écouter Radio Okapi. C'est l'heure de vous informer. Le journal Blaise Jordan Shindani Kambala.
Radio Okapi.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au sommaire de ce journal, l'opposition réunie au sein de la plateforme EC64 rejette une nouvelle fois l'idée d'un référendum. Elle s'oppose au renvoi par le chef de l'État de la proposition de loi sur son organisation et appelle la population à la vigilance. À Fungurume, dans la province du Lualaba, 4 villages seraient affectés par des émanations toxiques provenant des usines 10 et 11 K de Tenke Fungurume Mining. Dans un rapport transmis à Radio Okapi, la plateforme Kasmiage accuse l'entreprise de pollution de l'environnement et dénonce la proximité de ses installations avec les habitations. Alors que l'Ouganda développe activement ses projets pétroliers sur le lac Albert, la RDC peine encore à concrétiser l'exploitation de ses ressources dans cette zone. Quels sont les défis et les retombées attendues pour l'Ituri? Élément de réponse avec notre invité Moïse Aliéguéré. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. L'opposition regroupée au sein de C64 s'oppose à nouveau au renvoi de la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum au Parlement par le président de la République pour des réserves formulées par la Cour constitutionnelle. Pour C64, il n'est pas question de réviser ou de changer la Constitution, moins encore des référendums. Il invite la population à la vigilance. On écoute Jean-Marc Kabound dans cet extrait choisi par Richard Junior Kamunka.
Le projet de changement de constitution n'est toujours pas abandonné. Le renvoi au Parlement de la loi portant délibération du référendum pour une nouvelle constitution ne constitue ni le retrait de cette loi ni une rénonciation formelle au projet de changement de constitution. Dans un pays confronté à la guerre et à l'occupation d'une partie de son territoire, le risque de compromission de la cohésion nationale et de la balkanisation que fait peser un tel projet constitue une menace supplémentaire artificiellement créée pour notre indépendance nationale, notre souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Dans cet élan de consolidation des dérives autoritaires, d'engagement continu du régime qui Tshisekedi dans la rébellion contre l'ordre constitutionnel et des risques avérés de balkanisation de la RDC.
4 villages situés à Fungurume dans la province du Lualaba sont impactés par des émanations toxiques des usines 10 et 11 K de cette entreprise. Information livrée par la plateforme et des organisations de la société civile œuvrant dans les ressources naturelles, Kasmiage, qui accuse l'entreprise TFM de pollution de l'environnement. Dans un rapport de 21 pages qui est parvenu ce dimanche à Radio Okapi, Kasmiage souligne que ces usines de TFM sont érigées à proximité des villages. On écoute Shadrach Moukad, coordonnateur national de Kasmiage, au micro de Paulin Munanga.
Un champ de maïs qui produisait avant l'installation de ces usines, une superficie qui produisait 150 à 200 seaux de maïs. Aujourd'hui, il est difficile de produire ou de récolter dans cette superficie, ne fût-ce que 25 seaux ou 30 seaux. C'est vraiment grave. Les choux, les champs maraîchers ne produisent absolument rien. Les aubergines ne produisent absolument rien. Vous trouvez les bananiers qui sont frappés d'une décroissance totale. Au lieu de croître, les bananiers décroissent. Et c'est grave. Nous avons trouvé également la détérioration rapide des tôles. Dans moins de 6 mois, il faut remplacer d'autres tôles. Et aussi, les femmes vont à des sources d'eau pour se laver ou faire la lessive, mais elles reviennent avec des graves chatouillements. Et lorsque le matin ou le soir qu'on allume ces fours ou ces usines, les gens doivent s'enfermer dans des maisons pendant 2-3 heures jusqu'à ce que la fumée va disparaître. Donc ça chatouille, ça sent très mal même dans des maisons. Donc il y a un environnement malsain, un environnement invivable.
Au nord Kivu, près d'une centaine de familles se retrouvent sans abri après la démolition de leurs maisons dans le centre minier de Rubaya, en territoire de Masisi. Selon des sources locales, cette opération entamée il y a environ une semaine s'est poursuivie ce samedi dans un secteur communément appelé chez Rutivumbura, à la périphérie de la cité. D'après ces sources, les démolitions seraient liées à une expropriation destinée à permettre l'extension de la carrière d'exploitation du coltan. Les détails avec vous, Jean Ganduka Bongo.
Selon plusieurs sources locales et à Rokil Anonymat, l'opération de démolition commencée mercredi dernier s'est poursuivie ce samedi. À ce jour, près d'une centaine d'habitations auraient déjà été démolies dans cet espace connu sous le nom de Chirutivumbura, situé à proximité du principal site d'exploitation du coltan de Rubaya. D'après ces sources, un ordre de déguerpissement aurait été donné aux habitants par les responsables du mouvement AFC 123. Les motifs officiels ne sont pas encore connus. Toutefois, plusieurs proches des victimes estiment qu'elles pourraient être liées à un projet d'extension de la zone d'exploitation du coltan dont le gisement s'étend vers cette partie habitée de la cité. Les familles affectées, estimées à plus d'une centaine, dénoncent une décision qu'elles qualifient d'arbitraire. Elles affirment qu'aucune mesure d'indemnisation n'a été prévue, ce qui constitue selon elles une violation de leurs droits. Sous contrôle de l'AFC M23 depuis plus de deux ans, le site minier des Rubaya demeure exploité malgré son classement en zone rouge. L'an dernier, plus de 200 créateurs artisanaux y ont perdu la vie à la suite de leur non-encadrement, des glissements de terre et surtout des conditions de sécurité précaires dans lesquelles ils travaillent.
Restons dans la province, les victimes des différents conflits réclament justice et veulent préserver la mémoire des massacres commis dans la région. Une cérémonie de commémoration s'est tenue samedi à Kipriani, dans le quartier Boïkéné à Beni, dans le cadre des activités du Génocoste consacrées à la mémoire des victimes des massacres en RDC. Organisée par le collectif des victimes de l'agression rwandaise Sévar, cette rencontre a également été l'occasion d'appeler les jeunes à s'engager davantage pour l'avenir du pays. C'est un reportage de Marc Marofimbo.
Innocent Ruggiero, président du conseil d'administration du Sévar, a rappelé la précarité dans laquelle vivent de nombreuses victimes des massacres. Il réclame notamment que justice leur soit rendue.
Nous réclamons que la justice soit rendue pour que les auteurs de ces agressions, les auteurs de ces massacres soient traduits en justice. Aujourd'hui, les victimes vivent une situation terrible. Vous voyez, nous sommes ici à l'ICBC. À côté de nous, ici, il y a les pygmées qui sont là. Si vous les voyez, ils n'ont pas le médicament, ils n'ont pas quoi manger. Donc c'est la souffrance.
De leur côté, les jeunes artistes slameurs de Beni appellent leur père à ne pas rester spectateur face aux violences qui frappent l'est du pays. Esdras Kitamata est l'un d'eux.
Nous sommes cessés de mobiliser ce peuple puisque chaque jour qui passe, notre pays est agressé. C'est le bon moment de se réveiller et de prendre notre avenir à main puisque à toute la jeunesse de mon pays, que rien ne vous embrille. Nous avons un pays à bâtir, comme notre hymne le cite. Nous avons un bon pays à bâtir, c'est par l'union, l'amour et le vivre ensemble.
La cérémonie s'est clôturée par une visite au site du village des Papakombi Bakondo, où reposent normalement des victimes de la dernière attaque de ZADF le 30 mai dernier dans le quartier Ngadi à Beni. Marc Marofimbo, Beni Radio Okapi.
Nord Kivu toujours, la société civile de cantine demande la réhabilitation urgente du cachot de la police nationale congolaise locale après l'évasion d'une dizaine de détenus dans la nuit de vendredi à samedi. Située à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Beni, cette agglomération a également enregistré plusieurs cambriolages la même nuit, notamment dans des commerces. La société civile réclame une enquête pour retrouver les évadés et faire la lumière sur ces vols. Tché Aliamini Musubao, président de la société civile des cantines, est au téléphone de Marc Marofimbo.
Nous avons plusieurs fois alerté pour ce bâtiment qui abrite les bureaux de la police nationale congolaise, une ancienne maison des colons belges qui est dans un état de dégradation très avancé. Nous condamnons en fait ces fins et appelons les autorités à agir et d'ouvrir immédiatement une enquête approfondie sur l'évasion au cachot de la police. Et nous exigeons aussi les renforcements renforcement des dispositifs sécuritaires dans les centres commerciaux des cantines. Des vols à plein cœur du village comme ça laissent planer les doutes d'une complicité. C'est un sabotage que nous ne pouvons pas accepter. Nous appelons la population à la vigilance et à dénoncer toute présence des personnes inconnues ou non identifiées auprès des services compétents. Nous allons mettre pression autour des enquêtes pour retrouver les évadés, les circonstances d'évasion et les auteurs des cas de vol.
Contacté, le commandant de la police à Cantine indique qu'une enquête a été ouverte afin de retrouver les détenus évadés. Il plaide également pour la réhabilitation urgente du bâtiment qui abrite les cachots dont, selon lui, l'état de dégradation très avancé fait craindre un effondrement à tout moment. Au sud Kivu voisin, pendant ces temps, certains combattants de l'FC-M23 continuent de se rendre auprès des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Selon des sources sur place, ces combattants disent fuir les conditions difficiles dans lesquelles ils vivent. La dernière vague concerne 5 combattants accueillis cette semaine par la position de FARDC à Mulima, dans le territoire de Fizi. Selon Sami Badibanga, administrateur du territoire de Fizi, l'un des combattants rendus est dans un état de santé très préoccupant. Sami Badibanga revient sur la situation sécuritaire générale dans son entité au micro de Ronéline Tibonera.
La situation sécuritaire du territoire de Fizi reste relativement calme sur tous les fronts détenus par nos FRDC, appuyés par les VDP Wazalendo. Néanmoins, au front de Mulima, nos FRDC déployés là-bas reçoivent de Randy M23 venus de Mukoko dans les hauts plateaux de Fizi. Au nombre de 5, ces derniers affirment avoir été arrêtés des forces dans leur champ à Rutshuru, où ils étaient forcés de se faire enrôler dans le rang AFC M23. Ils justifient leur réduction par de mauvaises conditions de vie qu'ils traversent à Minembwe. La plupart de nos frères ont perdu la vie et nous n'avons pas droit au deuil, ni droit de réclamer quoi que ce soit, a déclaré l'un d'eux, très fatigué avec des pieds gonflés.
Les jeunes entrepreneurs de la ville de Kananga font face à de nombreuses difficultés, notamment les manques de financement, la rareté des opportunités et l'insuffisance d'un accompagnement adapté. Une situation qui pousse certains à abandonner leur projet ou à tenter leur chance ailleurs. Mais ceux qui choisissent de rester veulent démontrer qu'il est possible de réussir dans leur ville. Refusant de baisser les bras face aux obstacles, ils misent sur leurs propres moyens pour développer leurs activités et prouver que la réussite est possible malgré les difficultés. Le point avec André Katendenga Lamouloumé.
Entreprendre à Kananga n'est pas toujours chose facile. Les manques de financement, la faiblesse des opportunités et l'insuffisance de l'accompagnement constituent des défis majeurs pour les jeunes porteurs de projets. Certains préfèrent partir tandis que d'autres abandonnent tout simplement leurs ambitions. Cependant, plusieurs jeunes entrepreneurs ont fait le choix de rester et de persévérer. C'est le cas de Giscard Katala, propriétaire de la firme KTL, spécialisée dans la fabrication de la mayonnaise Mayo Bio. Malgré les difficultés, son entreprise continue de fonctionner. Elle lui permet non seulement de subvenir à ses besoins, mais aussi de créer quelques emplois pour d'autres jeunes.
J'avais tendance à voir le transport ou les frais académiques de parents. Cette activité m'aide.
Comme lui, de nombreux entrepreneurs locaux croient au potentiel de leur ville et réinvestissent leurs bénéfices dans le développement de leurs activités. Héritier Massambila appelle le jeune à faire preuve de résilience tout en plaidant pour un soutien accru en faveur de l'entrepreneuriat local.
Il faut un encadrement, une bonne formation et les soutiens financiers.
Par ailleurs, de nouvelles opportunités commencent à émerger. C'est notamment le cas du Festival Sankai. Il constitue un cadre d'échange où les jeunes entrepreneurs peuvent présenter leurs initiatives, développer leur réseau et accéder à de nouvelles opportunités. Kananga, André Katendenga Lamouloumé, Radio Okapi.
Comment améliorer la santé de la femme enceinte, celle allaitante, le nourrisson et les jeunes enfants afin qu'ils ne tombent dans le tableau de malnutrition? C'est le but de la formation organisée à Mbujimayi, au Kasaï oriental, par le programme d'appui au développement rural PADRIR, en partenariat avec le PRONANUT. 32 acteurs de la société civile du Kasaï oriental, de l'OMAMI, du Kasaï central, ainsi que quelques agents de services publics, dont notamment l'agriculture, les affaires sociales, l'environnement et les genres, participent à ces travaux de 5 jours. Des explications avec Esther Ndalafina.
Pendant 5 jours, les 32 acteurs de la société civile et les agents des services publics ont appris de bonnes pratiques pour la prise en charge de la malnutrition dans les ménages. Explication de David Nzengou, conseiller en nutrition, genre et inclusion sociale au PADRIR.
Les gens ne peuvent pas seulement produire s'ils ne savent pas comment utiliser les aliments. C'est pourquoi on a organisé ces renforcements des capacités pour qu'ils parviennent à améliorer les pratiques culinaires dans leurs ménages.
Selon Animo Jinga, des membres de Nganajika, bénéficiaires de la formation, l'enfant doit être bien nourri dès le sein de sa mère pour éviter la malnutrition.
On doit prendre soin de la femme enceinte, du développement embryonnaire de l'enfant, sa naissance, son allaitement exclusif, jusqu'à l'âge de 2 ans, que l'enfant prenne un repas équilibré.
Associer les acteurs de la société civile et les agents de l'État à cette formation signifie qu'il faut une prise en charge multisectorielle pour lutter contre la malnutrition. C'est ce qu'a retenu Benjamin Tchaba, venu de Kananga.
C'est-à-dire, on fait appel au ministère de l'Agriculture, de l'Environnement, genre, affaires sociales.
Signalons que les 4 provinces réunies dans la formation ont enregistré les taux élevés de malnutrition chronique et sévère chez les enfants de moins de 5 ans. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Ituri, avant d'aller plus loin, des volontaires des Nations Unies sont déployés dans plusieurs communautés pour appuyer les acteurs engagés dans la riposte non médicale contre la maladie à virus Ebola. Recrutés par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, ils ont pour mission de renforcer la sensibilisation des proximités, de lutter contre les rumeurs et la désinformation et de favoriser l'adhésion des communautés aux mesures de prévention. L'expert en gouvernance des crises au PNUD, Léopold Nonke, appelle les autorités, les leaders communautaires et l'ensemble de la population à collaborer avec ces volontaires. Il est au micro d'Isaac Remoyope.
Le PNUD a déjà recruté des volontaires des Nations Unies communautaires qui seront déployés dès la semaine prochaine dans les communautés. Leur mission sera claire. Ils contribueront notamment à renforcer la sensibilisation de proximité, lutter contre les rumeurs et la désinformation, accompagner les familles et les communautés, faciliter la remontée des préoccupations communautaires, renforcer le dialogue entre les communautés et les acteurs de la riposte, contribuer à l'alerte précoce et au référencement des situations préoccupantes vers les structures compétentes et le GOUSP. Ils viennent vous appuyer. Je vous demande donc de leur ouvrir vos portes et de faciliter leur travail. À partir d'aujourd'hui, faisons de chaque chef, de chaque femme, leader, de chaque jeune, de chaque responsable religieux, de chaque journaliste, de chaque organisation communautaire, un acteur de la riposte.
Actualité internationale.
Au Tchad, au lendemain de sa libération, l'ancien premier ministre et opposant Succé Masra, gracié vendredi 14 août par le président Mahamat Debi Itno, a retrouvé ses partisans samedi soir au siège de son parti Les Transformateurs en présence de plusieurs organes de presse. L'occasion d'exposer ses intentions pour l'avenir, même s'il demeure inéligible.
L'invité.
La RDC est-elle en train de prendre du retard dans l'exploitation de ses ressources pétrolières sur le lac Albert, alors que l'Ouganda avance avec d'importants projets comme Tilenga et Kingfisher? Deux voix s'inquiètent de l'absence d'infrastructures congolaises capables de permettre au pays de tirer profit de cette richesse dans la province de l'Ituri. L'activiste environnemental Moïse Alenguéré appelle les autorités à accélérer les démarches. Quelles sont les véritables opportunités, mais aussi les enjeux environnementaux liés à l'exploitation du pétrole dans cette zone? Moïse Alenguéré, notre invité, répond aux questions de Ronéline Tibonera.
Moïse Alenguéré, bonjour.
Bonjour, Monsieur Ronly.
Vous suivez l'ensemble de projets liés au développement des secteurs pétroliers dans l'Est de l'Afrique, mais également en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous nous intéressons surtout au corridor énergétique en Afrique de l'Est. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que la RDC a acquis un retard stratégique en ce qui concerne l'exploitation du pétrole au niveau du lac Albert?
Ben oui, les constants et ça s'appelle. Alors que les pays de la région intègrent rapidement leurs infrastructures de transport et d'extraction, notre pays, la RDC, acquise un retard préoccupant. Cette faiblesse structurelle ne doit rien au hasard. Elle découle d'une part d'une instabilité juridique, des lourdeurs administratives sans fin, et d'autre part du manque d'une vision stratégique claire pour l'exploitation de nos ressources en hydrocarbures. Bon, déjà, tous les pays de la région, notamment l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie, intègrent leurs infrastructures de transport, d'extraction des produits pétroliers. Et à ce jour, notre pays, la RDC, acquise un retard préoccupant.
Et qu'est-ce qui expliquerait aujourd'hui ces retards selon vous?
Bon, comme je viens de le dire, c'est l'instabilité juridique. Jusque-là, on n'a pas un cadre juridique vraiment clair qui nous permet de pouvoir faire valoir nos droits devant les instances juridiques voire même judiciaire au niveau international, afin d'obtenir des moratoires. Il y a également des lourdeurs administratives et les manques d'une vision stratégique claire pour l'exploitation des non-ressources en hydrocarbures.
Et quels sont les risques réels de cette passivité observée en RDC à court et à moyen terme en ce qui concerne cette exploitation, mais également les transports des hydrocarbures sur cet axe, je parle là du lac Albert?
Bon, au-delà des pertes financières directes dues au retard des productions, les risques majeurs et se manifestent sur deux fronts. Sur le plan économique, nous risquons une perte progressive de notre souveraineté énergétique, la RDC devenant un simple marché captif, forcé d'importer à coût élevé des produits pétroliers, raffinés ici des gisements pourtant situés à ses propres frontières. Et sur le plan géopolitique, cela s'est traduit par l'abandon de notre leadership régional au profit de l'axe Ouganda-Tanzanie-Kenya, qui dicte désormais seules les règles d'hygiène énergétique, logistique et commerciale en Afrique de l'Est.
Une question me vient à l'esprit. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans un monde où la question environnementale est prépondérante. Est-ce que le fait pour la RDC de ne pas accélérer les processus d'exploitation des hydrocarbures n'est pas une bonne nouvelle pour les communautés qui aujourd'hui plaident pour la protection de l'environnement au niveau de ces lacs?
Bon, écoutez, aujourd'hui, on a des avancées pas seulement dans d'autres secteurs comme le secteur énergétique, mais aussi dans la protection de l'environnement. Plus les gouvernements adhèrent à des conventions, par exemple l'accord cadre du Paris qui recommande la protection de l'environnement, la RDC peut aujourd'hui basculer vers l'économie verte, c'est-à-dire lors de la construction de pipelines, par exemple, il faut tenir compte des conditions environnementales pour assurer les communautés locales que l'environnement ne sera pas pollué, les écosystèmes ne seront pas détruits, ne seront pas rasés par le fait de l'exploitation de ces produits pétroliers. Ce qu'il faudrait rappeler ici, c'est que dans ces pays, nous avons aussi des communautés qui ne revendiquent pas toutes ces questions environnementales parce que tout simplement, non seulement les gouvernements de ces pays tiennent compte de la protection environnementale dans la construction de ces pipelines, mais aussi ces communautés ont vu l'intérêt suprême, l'intérêt supérieur de leur pays.
Et quelles sont aujourd'hui les pistes et des solutions pour permettre à la RDC de rattraper ses retards dans l'exploitation des hydrocarbures au niveau du Graben Albertine?
Bon, la RDC doit activer simultanément quatre leviers stratégiques complémentaires. Premièrement, les leviers juridiques. Deuxièmement, les leviers commerciaux, en mettant à profit la taille du marché de l'Est de la République démocratique du Congo, ou ériger des barrières tarifaires et réglementaires ciblées. Troisièmement, les leviers d'infrastructure, en conditionnant tout droit de passage des pipelines régionaux sur le sol congolais à de fermes contreparties industrielles.
Moïse Alieguera, nous vous remercions.
Merci, Monsieur Ronly.
Et c'était donc notre invité Moïse Alighiera qui répondait aux questions de Ronelli Ntibonera Idiamine. Voilà qui met fin à ce journal parlé dominical de la mi-journée, préparé pour vous par Jean-Gandou Kabongo et mis en onde par Alain Goy. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.